Lynn Langlois, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Je vous ai dit tout à l'heure, j'espère être à votre hauteur parce que ce livre-là est extrêmement courageux, extrêmement intime. Vous y parlez de tout, tout y passe, là, 300 quelques pages. Vos tentatives de suicide, 3, presque 4, vos nombreuses hospitalisations et vous n'avez pas de tabou, vous n'avez pas peur des mots. Vous vous qualifiez vous-même de malade mentale. Vous n'avez peur de rien, Lynn Langlois.
Non, pas du tout. Ben, oui, d'une certaine façon. J'avais la frousse de mettre ce livre-là sur le marché. Mais toutefois, je crois que c'était vraiment important. Pour les autres personnes atteintes de maladies mentales, qui, à quelque part, sont la plupart du temps seules avec leurs problèmes, et pour leur dire que non, c'est pas facile, que oui, on peut s'affirmer en tant que personne atteinte de maladie mentale et que, je sais pas, j'ai courageux aussi dans le sens que je voulais prendre, hein, c'est une prise de parole en tant que personne atteinte de maladie mentale, une malade mentale, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas,
parce que
quelque
vous dites
part.
Souvent, dans notre société, on fait attention aux mots « trouble bipolaire »,« trouble de santé mentale ». Et ça vous dérange beaucoup.
Oui, ça me dérange beaucoup parce que on prend beaucoup de détours, quelque part, pour nommer la chose, pour la rendre plus agréable ou plus facile.
Politiquement correct.
Exactement, tout à fait. C'est ça, politiquement correct. Et d'ailleurs, quand on parle d'hôpital en santé mentale, c'est quand même bizarre parce que il y a aucun autre département à l'hôpital où on va dire santé, le département en santé cardiaque, le département en santé oncologique, non.
C'est vrai.
C'est incroyable. Et puis, il y a personne dans santé, quand on appelle à l'hôpital ou quand on est dans un centre de santé mentale, il n'y a personne en santé, là. Alors, je ne comprends pas cette appellation-là.
Oui, et vous le dites dans votre livre, et vous dites que vous préférez parler tout simplement de maladie mentale.
Tout à fait. Et même si, dernièrement, on ne parle plus de maladie mentale, mais on parle de troubles. Hein? De troubles bipolaires, de troubles de l'affect, de troubles, ce sont une série de troubles qu'on nous présente parce que on n'a pas trouvé la cause de ces qu'on appelait auparavant maladies. Donc, à partir de ce moment-là, si on n'a pas la cause du problème, on n'a pas de traitement, donc on ne peut pas appeler ça une maladie à traiter.
Oui, et ça, on le comprend dans votre livre, et c'est intéressant pour des gens qui n'ont pas, comme moi, qui n'ont pas côtoyé de près la maladie mentale, ni dans ma vie, ni dans celle d'un proche, de voir à quel point ça peut être difficile de cibler. Vous avez rencontré plusieurs médecins, ça a pris du temps avant d'avoir un diagnostic. La médication, ça semble extrêmement difficile à cibler aussi. C'est une frustration un petit peu aussi, une fatigue qui s'installe.
Ben, il y a une fatigue et puis je pense qu'il y a une intolérance qui s'installe par rapport aux molécules chimiques. Parce que ça, je veux dire, oui, c'est pour traiter à quelque part un dysfonctionnement dans le cerveau. Toutefois, ça a un impact sur le corps en entier. Je veux dire, c'est des molécules chimiques assez puissantes là, qui interviennent dans les différentes échanges moléculaires du corps, les hormones, tout le système nerveux est sollicité par ces médicaments-là.
Et vous le dites, vos reins ne sont plus très, très efficaces. Donc, la bipolarité, en plus d'avoir un impact sur, bien sûr, la santé mentale, a un impact sur la santé physique.
Tout à fait, tout à fait. Avec médication ou sans médication. À la longue, le corps s'use parce que c'est une maladie exigeante à vivre d'un point de vue neurologique. Hein? Donc, moi, j'ai une insuffisance rénale. Maintenant, mes reins vont mieux, mais c'est causé directement par le médicament que j'ai pris pendant longtemps, qui est le lithium. Et puis là, on devait absolument arrêter ce médicament-là, qui n'était pas parfait, c'est vrai, mais qui quand même, on pourrait dire, atténuait les courbes de ce trouble de comportement-là chez moi.
Et on va en parler de ça parce qu'il y a peut-être des gens à la maison qui nous écoutent et qui se disent « OK, trouble bipolaire, c'est une maladie mentale, qu'est-ce que c'est? » On l'a dit tout à l'heure, Lynn, difficile à diagnostiquer, extrêmement complexe. Vous vivez avec la bipolarité de type 2. C'est quoi les caractéristiques de tout ça?
Bon, le type 2, c'est différent du type 1 parce qu'il y a un type 1 où les manies sont franches.
OK.
C'est-à-dire que une manie franche, c'est bien souvent perte de contact avec la réalité. Ou est-ce qu'il y a des grands aïes où on devient quelque part très...
comme super puissant, super héros.
Super puissant, super héros. On n'a plus de limites. On peut se promener nu l'hiver
dépenser
sur la rue.
Dépenser notre compte en banque au
tout
complet.
Tout à fait. Il n'y a plus rien qui nous fait rien. Mm-hmm. Hein? Et on se sent investi d'un grand pouvoir.
Invincible.
Oui, invincible, tout à fait. Et bien sûr, il y a les dépressions. Mais dans un cas de manie 1, les manies sont très fortes et les dépressions peuvent être très fortes ou non.
Okay.
C'est ça qui fait aussi la différence. On peut avoir de grandes périodes maniaques et de petites périodes dépressives ou le contraire.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pour la 2, il n'y a pas de manie franche. On appelle ça de l'hypomanie. C'est comme juste en dessous de la manie.
Okay.
Je ne perds pas contact avec la réalité, mais je deviens hyper performante.
Mm-hmm.
Tout va vite.
Tout va bien.
Tout va bien. Je suis vraiment efficace. Je suis efficace.
Efficiente, voilà.
Efficiente, plus besoin de manger, plus besoin de dormir. Ça fonctionne pareil, etc.
Mais est-ce qu'il y a quand même la phase de dépression avec le type 2?
Oui. Et dans mon cas, c'est des dépressions majeures.
OK.
Des dépressions profondes. Alors, ce qui se passe avec le... Comment je pourrais dire ça? C'est pas nécessairement comme ça pour tous les bipolaires de type 2. Il n'y a pas nécessairement de dépression profonde. Mais à la longue, je veux dire, le médicament que je prends, quelque part les médicaments, puis j'en ai plusieurs maintenant, peuvent atténuer cela. Mais le suivi psychiatrique est d'autant plus important.
Oui. Et ça, dans le livre, vous le décriez à quelque part. Je vous disais tout à l'heure, Lynn Langlois, avant d'ouvrir les micros, vous m'avez dit comment vous avez trouvé ça. Et je vous ai dit, en toute honnêteté, j'ai trouvé ça dur. Dur parce qu'il y a beaucoup de colère à travers le livre. Cette colère envers le système de la santé qui est difficile à soutenir, la difficulté, pardon, à soutenir la maladie mentale et les gens qui vivent avec.
Oui, il y a de la frustration. Il y a de la frustration parce que c'est pas parce que moi, je veux pas m'occuper de ma maladie, là. Je fais tout ce que je peux, je fais tout ce que je veux pour être mieux. Oui. En tout cas, j'utilise les moyens qui sont mis à ma disposition. Toutefois, les réponses à cette demande d'aide-là ne sont pas efficaces,
oui.
Mais vraiment pas efficaces. Et c'est... Pourquoi? C'est difficile, je ne peux pas vraiment répondre à ça. Je ne peux que partager mon expérience par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Des bipolaires, tout à coup, leur vie va super bien depuis qu'ils prennent leur pilule, j'en ai jamais rencontré.
Mm-hmm.
Jamais.
La maladie est toujours là, pas loin, là.
Oui, la maladie est toujours là. Et puis, on peut pas, comment je pourrais dire ça, la mettre de côté. Jamais. On a organisé notre vie, on a organisé notre routine afin de pouvoir vivre bien avec elle et de pouvoir justement se prémunir des difficultés qu'elle nous apporte dans notre quotidien.
Ouais. Justement, si vous aviez des trucs ou des conseils à donner, à savoir comment on peut apprivoiser un tout petit peu au quotidien cette maladie-là et faire avec dans notre vie.
C'est ça, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que il n'y a pas une personne pareille qui est atteinte de la maladie mentale, de la bipolarité. Parce que cette maladie-là, elle atteint les états d'âme, on pourrait dire ça, là, en gros. C'est le comportement. On a les high, on a les down.
Mm-hmm.
On va limiter ça à ça. Mais la personne qui est affectée par la maladie, elle a sa propre personnalité, ses propres goûts, ses propres aptitudes,
sa propre réalité, le boulot, les enfants.
Exactement. Donc, à quelque part, il n'y en a pas une recette pour vivre bien à cette maladie-là. Si j'y en avais une, je serais la première, je pense, à la diffuser très fortement. Mais, à quelque part, oui, il n'y en a pas de miracle. Mais je pense que s'il y a quelque chose à faire, en attendant qu'on trouve les médicaments appropriés
et
l'origine
causes, là,
de la maladie, c'est le milieu hospitalier pourrait, à quelque part, être plus approprié et adéquat pour recevoir et encadrer ce type de malade-là.
Oui.
Et ça, je pense que c'est possible et qu'on peut intervenir là-dessus.
Parce que ce qui se caractérise par votre histoire, Lynn Langlois, c'est que des médecins, vous en avez vu plusieurs, plusieurs vous ont suivi, et là, ils se relançaient un petit peu la balle, certains parfois désertaient pour congé, retraite, et là, oh, on arrive avec un nouveau qui reprend tout de zéro, et ça, ben, c'est pas toujours un avantage, là.
Non, surtout pas quand tu es atteint d'une maladie mentale où l'encadrement et le suivi est très important.
Oui.
Ce sont des maladies affectives. Hein? Donc, on a besoin, en tout cas moi, d'être sécurisé et encadré et d'être soutenu dans la prise en charge justement de ce mal-là qui fait en sorte que moi, je n'ai pas toujours le contrôle sur cette maladie-là. Hein? Et oui, moi, j'ai fréquenté le milieu hospitalier, ça fait longtemps, ça fait au moins 25 ans.
Oui.
Et malheureusement, je dois admettre qu'il n'y a pas eu d'évolution. Et je dirais même que c'est pas pire, mais presque.
Oui, c'est ça.
Oui, il y a une distance qui se crée entre l'intervenant et le malade. Parce que, à quelque part, on veut se protéger, ou je sais pas, on veut voir seulement le cas, et non pas une personne qui est aux prises avec un problème de comportement.
Et qui est unique.
Et qui est unique. C'est une personne unique avec, justement, tout sa personnalité, ses besoins, son encadrement, sa famille, etc. Voilà. Donc, il n'y en a pas une recette.
Lynn Langlois, en terminant, je ne peux vous empêcher de vous poser une question qui est peut-être difficile. Votre père était bipolaire, le frère aussi l'était également, d'autres membres de votre famille, vous avez trois fils. Est-ce que parfois vous craignez pour eux, pour leur santé?
Tout à fait. Moi, j'ai, dès le départ, quand ils étaient tout petits, tout ça, j'étais inquiète. Je voulais pas leur transmettre cette maladie-là. Et je me suis beaucoup informée, je me suis inquiétée énormément et j'ai demandé des réponses aux différents spécialistes en psychiatrie ou en santé mentale, si on veut être gentil. Et il y en a pas de réponse. Il y en a pas, ça l'a fluctué avec le temps. On pourrait parler de 1 sur 5 dans la famille ou etc.
Ouais.
Il y en a pas de réponse. Mais c'est certain que chez moi, c'est une préoccupation. Et je fais... OK, on pourrait parler d'hérédité de la maladie, mais aussi, je pense que c'est important d'informer les enfants et de pas le dramatiser, la déprime qui arrive, mais de leur donner de l'information, de leur faire voir leurs moyens, de voir qu'aussi que juste de se rendre compte que ça va pas bien, c'est quelque chose, mais on n'est pas obligé de rester... on peut la prendre en charge.
Oui, voilà.
Cette douleur-là.
Pas rester démunie.
C'est ça, ce désordre, et que la vulnérabilité fait partie de la vie.
Ouais.
On est des êtres sensibles, vulnérables et fébriles, et c'est tout. C'est la vie, c'est être vivant.
Lynn Langlois, vous êtes extrêmement inspirante. Je rappelle, votre livre s'appelle « Ma vie est une série BIP ». C'est publié chez Québec Amérique. Merci beaucoup pour ce grand acte de courage.
Merci à vous.